Chapitre 4. Dans le chapitre 2, l'apôtre a présenté Christ s'abaissant de la gloire jusqu'à la croix, manifestant l'humilité qui devrait caractériser les croyants et nous permettre d'être de vrais témoins pour Christ dans le monde que nous traversons. Dans le chapitre 3, il a dirigé nos regards vers Christ, exalté dans la gloire comme Seigneur, celui en qui nous voyons le but glorieux vers lequel nous marchons. Dans ce chapitre 4, il nous exhorte quant à ce qui doit caractériser pratiquement la vie journalière de ceux qui ont Christ devant eux comme leur parfait modèle et leur unique but. Et il présente Christ comme celui qui peut nous fortifier en toutes choses. Verset 1. Citation de l'Écriture. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, bien-aimés. Fin de citation. Nous sommes exhortés à demeurer fermes dans le Seigneur. Les ennemis auxquels nous sommes confrontés, que ce soit la chair en nous, le diable au dehors ou le monde autour de nous, sont trop forts pour nous. Mais le Seigneur a le pouvoir de s'assujettir même toute chose. Il ne nous est pas demandé de vaincre par nos propres forces ou par notre sagesse, nous en serions bien incapables, mais de demeurer fermes dans le Seigneur, dans la puissance de sa force. Versets 2 et 3. Citation de l'Écriture. Je supplie Évodie, et je supplie Saint-Tiche, d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément aussi, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Fin de citation. Nous sommes exhortés ici à avoir une même pensée dans le Seigneur. Il y avait à Philippe une divergence de pensée entre deux femmes pieuses, et l'apôtre prévoyait que ce fait, dont les saints pensaient peut-être qu'il était peu important, pourrait facilement engendrer beaucoup de souffrances et de faiblesses dans l'assemblée. Voici un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il ? Jacques 3, verset 5. Cependant l'apôtre, qui sait séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, ne manque pas de souligner la piété de ses sœurs qui avaient combattu avec lui dans l'Évangile, en dépit de l'opposition, des insultes et des persécutions. Leur piété même ne faisait qu'ajouter à sa douleur qu'il y ait entre elles un différend quant à ce qui touchait aux intérêts du Seigneur. C'est pourquoi il ne se contente pas de les supplier d'avoir une même pensée, mais il prie Épaphrodite de les aider. En s'efforçant de le faire, il devait se rappeler que leurs noms sont dans le livre de vie. Parmi les enfants de Dieu, il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Mais pourrions-nous faire peu de cas d'aucun de ceux dont les noms sont dans le livre de vie ? Verset 4. Citation de l'Écriture. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Fin de citation. Ce verset nous invite à nous réjouir toujours dans le Seigneur. L'apôtre nous a déjà exhortés à nous réjouir dans le Seigneur, mais maintenant il dit non seulement « réjouissez-vous », mais « réjouissez-vous toujours ». Quelque pénibles que soient nos circonstances, quelque grande que soit l'opposition de l'ennemi et navrante les défaillances de ceux qui appartiennent au Seigneur, nous pouvons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Il est celui à qui nous pouvons dire « tu demeures » et « tu es le même. » Verset 5. Citation de l'Écriture. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Fin de citation. En ce qui concerne le monde que nous traversons, avec toute sa violence et sa corruption, l'apôtre nous exhorte en ces termes « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » En son jour, le Seigneur réglera toute la question du mal et donnera libre cours à la bénédiction. Il vient bientôt. Ce n'est donc pas aux croyants de se mêler du gouvernement du monde, ni d'affirmer leurs droits et de se battre pour les défendre. Notre privilège et notre responsabilité, c'est de représenter Christ et donc de manifester cette douceur qui caractérisait le Seigneur. Nous nous déprécions aux yeux du monde lorsque nous revendiquons nos droits ou nous opposons à son gouvernement. Si nous manifestons la douceur de Christ, le monde lui-même pourra difficilement nous condamner. La douceur est irrésistible, a-t-on dit. versets 6 et 7. Citation de l'Écriture. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Fin de citation. Pour ce qui est des épreuves que nous rencontrons dans le chemin, des nécessités de chaque jour et des besoins corporels liés à notre condition présente, nous serons délivrés de toute inquiétude en exposant toutes ces choses à Dieu. S'il est vrai que notre douceur doit être connue de tous les hommes, nos requêtes doivent l'être de Dieu. Le résultat ne sera peut-être pas l'exaucement de toutes ces requêtes, ce qui pourrait ne pas être pour notre bien, ni à la gloire de Dieu. Mais notre cœur sera délivré de son fardeau d'inquiétude et gardé dans une paix profonde, la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence. Ne s'inquiéter de rien ne veut pas dire être insouciant à tous égards. Cela signifie qu'au lieu d'être continuellement tracassé par les soucis d'aujourd'hui et la crainte de demain, nous confions à Dieu tous nos sujets d'inquiétude. Il remplit alors notre cœur de sa paix bienfaisante. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu, et c'est par lui également que Dieu peut nous accorder sa bénédiction. Versets 8 et 9. Citation de l'Écriture. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez et appris, et reçu, et entendu, et vu en moi. Faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. Fin de citation. Lorsque nous serons délivrés de nos soucis, nos pensées seront non seulement gardées dans la paix, mais disponibles pour s'occuper de toutes les choses dont Dieu fait ses délices. Le monde que nous traversons est caractérisé par la violence et la corruption, et nous sommes appelés à rejeter le mal. Mais nous devons veiller à ce que nos pensées ne soient pas souillées à force de s'appesantir sur le mal. Il est bon que nous le haïssions et le redoutions, et que nous aimions et choisissions le bien. Si nos pensées étaient gouvernées par l'Esprit de Dieu, ne seraient-elles pas occupées, ne jouiraient-elles pas de toutes les choses excellentes qui ont été vues en Christ en perfection? Christ n'était-il pas vrai, vénérable, juste, pur, aimable, de bonne renommée, vertueux, celui qui était digne de louange à tous égards? Avoir nos pensées occupées de ces choses ne signifie-t-il pas trouver nos délices en Christ? Après nous avoir exhortés quant aux choses auxquelles nous devrions penser, Paul passe aux choses que nous devrions faire. Dans notre vie pratique, nous devons faire, comme l'apôtre lui-même. Il a déjà dit « Je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. » En marchant ainsi, non seulement nous jouirons dans nos âmes de la paix de Dieu, au milieu d'un monde où règne la confusion, mais nous aurons le Dieu de paix avec nous. La paix de Dieu gardant nos cœurs de toute inquiétude et la présence de Dieu nous soutenant dans notre faiblesse. En résumé, si éprouvantes que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons avoir à passer, si terrible que soit le mal dans ce monde, la corruption dans la chrétienté et les défaillances au sein du peuple de Dieu, si grande que soit l'opposition de l'ennemi et pénibles les insultes et les reproches que nous pouvons recevoir, nos vies seront abondamment bénies si nous les vivons en accord avec ces exhortations à demeurer ferme dans le Seigneur, verset 1, avoir une même pensée dans le Seigneur, versets 2 et 3, nous réjouir toujours dans le Seigneur, verset 4, manifester la douceur du Seigneur envers tous les hommes, verset 5, rejeter tous nos soucis sur Dieu par la prière, versets 6 et 7, avoir nos pensées occupées de ce qui est bon, suivant l'exemple de Christ, verset 8, être gouverné dans tout ce que nous faisons, par Christ, unique objet de nos affections. Verset 9. Versets 10 à 13. Citation de l'Écriture. Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre votre pensée pour moi, quoique vous y ayez bien aussi pensé, mais l'occasion vous manquait. Non que je parle ayant égard à des privations, car moi j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Fin de citation. Dans les derniers versets de l'Épître, Paul nous apparaît comme quelqu'un qui se montre supérieur à toutes les circonstances. Il avait rejeté tous ses soucis sur Dieu, et maintenant il pouvait se réjouir de ce que Dieu avait mis son amour dans le cœur des saints de Philippe et leur avait donné l'occasion de prendre soin de lui dans son affliction en l'aidant à subvenir à ses besoins. Néanmoins, nous pouvons voir dans l'apôtre quelqu'un qui était réellement au-dessus des circonstances. Il savait être abaissé aussi bien que dans l'abondance, rassasié aussi bien qu'affamé, dans la prospérité aussi bien que dans les privations. Il avait acquis cette sagesse par l'expérience et sous la direction de Dieu. En effet, il peut dire « J'ai appris » et « Je suis enseigné ». Si Dieu permet que nous passions par des circonstances éprouvantes, c'est pour nous instruire. Si je suis rassasié, il me garde d'être insouciant, indifférent et satisfait de moi-même. Si j'ai faim, il me garde d'être découragé et mécontent. Pensée de J.N. Darby. Ainsi, Paul peut dire « Je puis toutes choses », mais il ajoute « en Christ ». Il ne dit pas « Je puis toutes choses par moi-même », mais « en celui qui me fortifie ». Versets 14 à 20. Citation de l'Écriture. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Or, vous aussi, Philippiens, vous savez qu'au commencement de l'Évangile, quand je quittais la Macédoine, aucune assemblée ne me communiqua rien pour ce qui est de donner et de recevoir, excepté vous seul. Car même à Thessalonique, une fois et même deux fois, vous m'avez fait un envoi pour mes besoins. Non que je recherche un don, mais je recherche du fruit qui abonde pour votre compte. Or, j'ai amplement de tout, et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite ce qui m'a été envoyé de votre part. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Mais mon Dieu suppléra à tous vos besoins, selon ses richesses en gloire, par le Christ Jésus. Or, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Fin de citation. Par cette dépendance de Christ pour subvenir à tous ses besoins, l'apôtre était gardé de tomber dans le piège de se laisser influencer par les hommes pour obtenir leur faveur et leur aide. Les Philippiens avaient néanmoins bien fait de contribuer à subvenir à ses besoins. L'amour qui les avait conduits à ce don, Dieu le recevait comme du fruit qui abondait pour leur compte, car c'était un sacrifice de leur part, un sacrifice agréable à Dieu. D'après sa propre expérience de la bonté de Dieu, Paul peut dire en toute confiance « Mon Dieu suppliera tous vos besoins, selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus. » Nous pouvons être soulagés de toute inquiétude en exposant tous nos besoins à Dieu par le Christ Jésus, et Dieu y suppléera par le Christ Jésus. Nous pouvons bien dire avec l'apôtre « Or, à notre Dieu et Père, soit la gloire, au siècle des siècles. » Amen. Versets 21 à 23. Citation de l'Écriture. Saluez chaque saint dans le Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux qui sont de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Fin de citation. La salutation finale offre un bel aperçu de ce que fut la communion chrétienne dans l'Église primitive et montre dans quelle estime l'apôtre tenait ses croyants. En effet, il ne se contente pas de dire qu'il salue chaque saint dans le Christ Jésus, mais aussi « Tous les saints vous saluent ». Il termine en disant « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit ». Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu pour subvenir aux besoins de nos corps, et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour garder notre esprit. Admirons la manière dont Christ est placé devant nous d'un bout à l'autre d'une si belle épître. Dans le premier chapitre, c'est Christ, notre vie, qui amène le croyant à considérer toute chose en rapport avec lui, verset 21. Dans le deuxième chapitre, c'est Christ, notre modèle d'humilité, pour nous unir ensemble dans une même pensée, verset 5. Dans le troisième chapitre, c'est Christ, notre but dans la gloire, pour nous permettre de vaincre ce qui nous est contraire, verset 14. Dans le dernier chapitre, c'est Christ, notre force, pour subvenir à tous nos besoins, verset 13. En outre, au cours de cette épître, nous apprenons quelle heureuse expérience serait la nôtre si, dans la puissance de l'Esprit, nous traversions ce monde en ayant Christ devant nous. Nous ferions, avec l'apôtre, l'expérience de la joie dans le Seigneur, chapitre 1, verset 4, chapitre 3, verset 1 à 3, chapitre 4, verset 4 et 10, de la confiance dans le Seigneur, chapitre 1, verset 6, de la paix qui surpasse toute intelligence, chapitre 4, verset 7, de l'amour mutuel, chapitre 1, verset 8, 2, verset 1, 4, verset 1, de l'espérance qui attend la venue du Seigneur Jésus, chapitre 3, verset 20, et de la foi qui compte sur le secours du Seigneur, chapitre 4, verset 12 et 13.